Sers-le d'un cœur dévoué et d'une âme bien disposée. Car l'Éternel sonde tous les cœurs et pénètre tous les desseins et tous les pensées. Si tu le cherches, il se laissera trouver par toi. Mais si tu l'abandonnes, il te rejettera pour toujours. Considère maintenant que l'Éternel t'a choisi afin que tu bâtisses une maison qui serve de sanctuaire. Fortifie-toi et agis. Voilà pour ce matin. Je voudrais avant tout mettre ces deux versets dans leur contexte. Voilà que c'est le message de David à la fin de sa vie. Et David rassemble tous les chefs, tous les responsables, et il leur dit dans le verset 8, à mettre en pratique les commandements de l'Éternel. De mettre en pratique les commandements de l'Éternel. Et puis, il parle à son fils, Salomon. Et toi, Salomon, mon fils, c'est comme s'il dirait aujourd'hui, et toi, mon frère, David, ma sœur Céline, Rose, Mehdi, et chacun de nous. Et toi, Salomon, mon fils, tu as été choisi par l'Éternel à construire le temple, la maison de Dieu. Salomon a été choisi. David, son père, ne pouvait pas construire le temple parce qu'il est un homme de guerre, il a versé du sang. Mais pas rien que pour ça, mais aussi parce qu'il a été un homme, David, a été choisi par l'Éternel pour être le conducteur sur tout Israël. David n'a pas été choisi pour construire le temple, lui, le roi. Il a été choisi pour être le conducteur du peuple de Dieu. Salomon, lui, a été choisi pour construire le temple. Alors ce matin, juste un petit rappel pour chacun de nous. Pour toi, mon frère. Pour toi, ma sœur. Nous avons été choisis. Je ne sais pas si on réalise. Est-ce qu'on réalise vraiment que l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, celui qui a créé l'univers, t'a choisi. Je me souviens que Matthieu, sa première sélection du Hainaut, il a été choisi. Personne ne s'attendait à cela. Et il a été choisi. Il l'a réalisé le jour qu'il a fait le premier entraînement avec la sélection. Le premier jour que tu es rentré dans l'église, est-ce que tu as réalisé que tu as été choisi par l'Éternel, le Dieu créateur? Quel privilège! Il t'a choisi pour être sauvé et il t'a choisi pour que tu le serves. Mais, Aurélien dit souvent que je dis mais, je ne peux pas et je ne peux pas prendre tel et tel service qui ne m'a pas été donné par l'Éternel. Je m'explique. David ne pouvait pas faire le temple. Il était le roi et il ne pouvait pas faire le temple. Il n'a pas été choisi. Maintenant, si David se disait en lui-même, je vais faire quelque chose de bien, quelque chose de bon, je vais construire le temple. Tous les responsables alentour de lui auraient dit, waouh, David, tu vas faire quelque chose de bien, tu as raison de le faire. Pourtant, il aurait fait une grosse erreur. Une erreur. Oui, mon frère. Oui, ma sœur, nous pouvons faire le bien, sans que cela soit bien. Nous pouvons faire le bien sans que cela soit bien. Dans la Bible, plusieurs textes de l'Écriture montrent qu'une activité qui pourrait plaire à Dieu peut ne pas lui être agréable. Nous voyons les Corinthiens, quelques-uns, mettaient leurs dons spirituels en pratique. Mais il y avait une erreur. Ils mettaient en pratique sans l'amour. J'aime ce texte de 1 Corinthiens 13. Tout le monde aime juste même le mettre pour le mariage. Mais le contexte, si on regarde bien, c'est pour les frères et sœurs qui ne mettent pas l'amour dans leurs dons spirituels. Quelle erreur! Les Philippiens servent Dieu, mais pour leur propre intérêt et non la cause de Jésus-Christ. Quelle erreur! Marthe et Marie, Marthe croyait bien faire, à servir Jésus. Quelle erreur, c'était pas le bon moment. C'était pas le bon moment. Alors la première chose à savoir, et ça va être dur pour ce matin, un dimanche matin, on n'a pas envie d'entendre ça, on préfère entendre beaucoup de choses, mais pas ça. Dieu n'a pas besoin de toi et de moi. Il n'a vraiment pas besoin de toi et moi. Je ne suis pas indispensable. Mais Dieu a voulu te choisir pour que tu accomplisses ses desseins à lui. C'est un cadeau qu'il t'offre. Il veut t'offrir ce cadeau, ce privilège. Il t'a choisi. Alors, la question est, comment savoir ce que Jésus ou Dieu a choisi pour moi? Quel service? Avant de répondre, il faut regarder ce que David dit à son fils Salomon, avant de lui dire qu'il a été choisi pour construire le temple. Olivier, tu peux laisser les versets sur la fiche ainsi, on va regarder tous ensemble. La première chose, il dit, David, connais le Dieu de ton père. D'autres versions disent, apprends à le connaître. Reconnais le Dieu de ton père. Est-ce que Salomon connaissait le Dieu de son père? Bien sûr que oui. Il connaissait beaucoup de choses sur Dieu. Il voyait son père, David, quand il priait, quand il chantait. Il entendait beaucoup de choses que son père racontait sur Dieu. Il voyait son père partir au combat. Il voyait son père faire tel et tel sacrifice. Mais lui, Salomon, est-ce qu'il connaissait Dieu personnellement? Dieu le connaît et il l'a choisi, qui veut dire Dieu est venu vers lui. Et lui, il doit venir vers Dieu pour le connaître personnellement. Alors ce matin, je voudrais m'adresser à tous les jeunes, mais aussi à chacun de nous. Tu connais le Dieu de ton père? Oui, tu vois ton père en train de prier, Tu vois ton père en train de chanter. Tu vois ton père qui s'en va à telle et telle réunion. Tu vois ton père qui confesse ses péchés. Mais toi, est-ce que tu le connais personnellement? Lui, il est venu vers toi et il t'a choisi. Et il veut que tu le connaisses en venant vers lui. Et comment? Par la repentance. Lui dire, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de te connaître. Je suis un pauvre pécheur. Je veux te connaître. Voilà la première chose. Tu dois connaître personnellement ton Dieu. Lui, il t'a choisi. La deuxième chose qui dit David à Salomon, sers-le d'un cœur dévoué. D'autres traductions disent, adore-le avec un cœur sans partage ou un cœur entier. Une fois que tu le connais personnellement, tu es appelé à lui obéir. De tout ton cœur. L'obéissance ne veut pas dire que tu ne vas plus pécher, loin de là. Mais l'esprit que tu as reçu dans ton cœur t'appelle à revenir et à revenir vers lui. C'est ça l'obéissance. On parle d'une vie de sanctification, de revenir à lui. Et l'obéissance est également d'un cœur dévoué, sans partage, entier, qui veut dire une vie consacrée à lui, tout à lui, qui veut dire également dans ton cœur, il n'y a rien qui doit passer, rien du tout. Et on sait que dans la vie de Salomon, il y a quelque chose qui est passé. C'est les femmes. Il a laissé passer les femmes. Alors, chacun de nous doit obéir et ne rien laisser passer. Première chose, le connaître personnellement et lui obéir sans laisser passer autre chose dans ton cœur. Puis David dit, car l'Éternel sonde tous les cœurs, il pénètre tous les desseins et toutes les pensées. David dit à Salomon, attention mon fils, attention mon fils, Dieu te connaît. David a écrit ce psaume 139, l'Éternel me connaît et il te connaît mon fils. Salomon. Je reviens sur les Corinthiens qui servaient Dieu sans l'amour. Quand tu vas le connaître, quand tu vas l'obéir, il va connaître aussi ton cœur, comment tu vas le servir. Est-ce que tu vas le servir sans l'amour? Ou comme les Philippiens, tu vas servir Dieu pour ton propre intérêt. Dieu te connaît et il connaît tes desseins. Comment tu vas le servir? Pour tes propres intérêts, tu vas le servir? Non. Ou peut-être comme Marthe. Il connaît nos pensées et Mehdi a fait un message sur ça. Marthe avait des pensées sur sa sœur. Elle vient pas m'aider, ma sœur. Et combien de fois nous avons cette réaction d'avoir des pensées, on sert Dieu et on voit notre sœur, notre frère qui est en train d'adorer Dieu. Mais qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il vient pas m'aider? comment j'ai mes pensées envers mon frère et ma sœur. Dieu te connaît et il voit tes intentions, comment tu veux le servir. Première chose, le connaître personnellement, lui obéir sans laisser rien passer dans ton cœur. Dieu te connaît ton cœur, tes desseins, tes pensées. À moi d'avoir le cœur sans hypocrisie et que Dieu retire tout orgueil. Quatrième chose qui dit David à Salomon. Regardez ce verset. Si tu le cherches, il se laissera trouver par toi. Mais si tu l'abandonnes, il te rejettera pour toujours. David sait que Salomon doit faire un choix, et un choix important. David ne parle pas qu'il va perdre son salut. Non. Il lui dit, si tu le cherches, il se laissera trouver par toi. Salomon doit persévérer. Chercher, c'est persévérer. Si c'est pour l'éternel, tu es appelé à persévérer. Mais si tu l'abandonnes, alors il te rejettera pour toujours. Si tu refuses Salomon, alors il te rejettera. C'est même pas dans le sens qu'il te rejettera, c'est que toi t'as pris un choix de pas aller vers Dieu. Alors dans ton choix, évidemment qu'il t'abandonne, parce que tu l'abandonnes, tu n'en veux pas. David sait très bien qu'en tant que père et en tant que croyant, son fils n'est pas automatiquement croyant. Il faut qu'il fasse un choix. Et s'il fait ce choix de servir Dieu, il est important de persévérer. Parce que ce n'est pas une vie facile. Et David sait très bien que ce n'est pas une vie facile de vivre avec Dieu. Souvent on entend, viens à Dieu et tes problèmes s'en vont, loin de là. Ce n'est pas facile. Tu es appelé à persévérer chaque jour. J'ouvre une parenthèse, je la referme avec ces « si ». 2 Timothée 2, versets 12 et 13. Regardez l'apôtre Paul, ce qu'il dit. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le renions, lui aussi nous reniera. Paul est en train de parler à des chrétiens. Mais dans les chrétiens, il y a des faux chrétiens. Et ces faux chrétiens ne persévèrent pas. Parce que Paul continue à dire, si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. S'il t'a choisi, c'est pour toujours. Le Seigneur ne t'abandonne pas. Mais il veut que tu persévères. Parce que dans la vie chrétienne, il y aura des difficultés, il y aura des pleurs, il y aura des souffrances. C'est pourquoi tu es appelé à persévérer. Le connaître personnellement. Lui obéir sans rien laisser passer. Dieu te connaît. Ton cœur, tes desseins, tes pensées. À moi d'avoir un cœur sans hypocrisie et un cœur pour les autres. Je dois persévérer. Alors, comment savoir ce que Dieu a choisi pour moi? Je crois que ce n'est pas la bonne question. La question est, Dieu t'a choisi. Il t'a choisi pour que tu le connaisses. Il t'a choisi pour que tu lui obéisses. Il t'a choisi parce qu'il connaît ton cœur. Il connaît tes pensées. Il connaît tes desseins. Il t'a choisi pour que tu persévères avec lui. Alors, l'Église est là pour te donner tel et tel service. Regardez, David dit à Salomon, Dieu t'a choisi pour construire le temple. Il est le responsable, David. Il est le conducteur. Et dans l'Église, il y a ces conducteurs, il y a ces responsables, et ils ont un rôle à jouer. Ils ont des responsabilités à te donner tel et tel service. Mais parfois, on ne veut pas tel et tel service parce qu'on veut être là devant. Moi, j'admire tous ceux qui font des services qu'on ne les voit pas. Je les connais en tant que responsable et j'admire. Vous savez qui nettoie l'Église? Est-ce que vous priez pour ces personnes qui viennent nettoyer l'Église? Vous savez qui est en train de tondre? On ne les connaît pas, ces gens. On connaît, bien sûr, Gino, Mehdi, Benoît, qui sont devant. David connaît son fils. Et il connaît qu'il a besoin de lui. Et il lui dit, à la fin, David lui dit à Salomon, fortifie-toi et agis. Fortifie-toi et agis. C'est quoi se fortifier, mes frères et sœurs? Tous, on va répondre, mais lis ta Bible et prie. Tu vas être fortifié. Il n'y a pas que ça. Je me souviens, il me reste encore quelques minutes, je me souviens, dès que je me suis converti, après peut-être un an, je voulais être aumônier de prison. Voilà que je vais près de Alain, qui était le responsable de cette église, je dis, Alain, je veux être aumônier. Il me regarde. T'es sûr, Gino? Ouais, j'ai envie de faire aumônier de prison. Ok, on va envoyer une lettre. Il envoie une lettre, je suis convoqué à Bruxelles. Je rentre à cette pièce-là, plein de personnes. Je suis là devant et il me regarde de la tête aux pieds. À l'époque, j'étais mignon, je comprends qu'il me regardait ainsi. Et là, il me pose la question, comme au travail, quelles sont tes motivations? Et je réponds, si je suis là, c'est que je suis motivé. Et après, il me pose cette question. Tu ne trouves pas que tu es jeune pour faire ce ministère? Et moi, qui connais un peu la Bible, je lui dis, ben, Dieu a choisi des jeunes. Regarde Jérémie, regarde Timothée. Et ils me font, Quand je fais ça, mon épouse déteste. J'ai compris tout de suite. Après quelques jours, j'ai eu la lettre comme quoi je n'étais pas pris. Là, j'étais vraiment triste. C'est là que Dieu m'appelle « Fortifie-toi ». Fortifie-toi. Oui, Dieu ne répond pas ce que moi j'ai envie de faire, ou peut-être ce n'est pas le bon moment. Et c'est là qu'on doit être fortifié. Et je continue. Après un peu plus de 15 ans, je reçois un coup de fil. C'est l'aumônier de Mons qui me téléphone, Philippot. Il me téléphone, il dit, Gino, j'ai besoin de toi. Tu dois être aumônier avec moi. Je dis, Philippot, j'ai déjà été refusé, pas besoin que j'aille encore une fois. Non, j'ai vraiment besoin de toi. Et là, je le dis à mon responsable, c'était Jean-Claude, je veux être aumônier. Et il me dit, on va envoyer une lettre. Voilà, de nouveau à Bruxelles. Ça a duré 5 minutes. Ils m'ont dit directement oui. J'ai rien compris. Mais le pire, c'est que je suis italien. Il faut que le ministère belge fasse une recherche en tant que citoyen italien, mais qui vit ici en Belgique, faire une recherche sur moi. Et ça peut traîner parce qu'ils doivent regarder cela en Italie. Mais les Siciliens, là-bas, pour trouver un document, il faut vraiment longtemps et longtemps. Mais en quelques temps, même pas une semaine, j'ai eu la réponse, comme quoi je pouvais être aumônier. Et Philippot m'a lancé directement dans la sauce. Il me dit, tu rentres à la prison, tu donnes ta carte d'identité, on te donne un badge, et là, il y a plusieurs portes, et tu dois passer plusieurs portes. Et une fois que tu arrives dans une grande pièce, il y a 4 ailes, A, B, C, D, et il y a aussi l'aile psychiatrique. Et là, tu ouvres une boîte aux lettres en face de toi. Tu ouvres cette boîte aux lettres et il y a toutes les personnes qui veulent te voir. Hein? J'arrive là. La première porte, la deuxième porte. Et quand je rentrais, je disais, Seigneur, qu'est-ce que je fais ici? Qu'est-ce que je fais ici? Voilà que j'ouvre la boîte aux lettres, plein de papiers. Bon, je dis, bon, je vais commencer par l'aile A, c'était pas la bonne. Je rentre la première pièce, je croyais qu'il n'y avait qu'une personne. Ils étaient à 5, dans 3 mètres carrés. Et quand je parlais à la personne que je devais voir, tout le monde rigolait. Et je me disais, Seigneur, qu'est-ce que je fais ici? Qu'est-ce que je fais ici? Voilà, après quelques semaines, je suis à l'intérieur avec une personne. Et à un moment donné, j'entends boum, 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 boum. Voilà, une alerte. Ça sonne. Il y avait une personne qui a fait sauter la porte d'entrée. Il allait avoir une personne qui allait s'évader. Et que le garde qui me crie « Sors, sors !» Et j'étais à l'intérieur avec le détenu. Lui, il me tenait. « Non, reste près de moi, j'aime bien. Reste près de moi. Sors, sors !» Je ne savais pas quoi faire. Mais voilà que je commence à courir. On ferme le grillage derrière moi. Je devais passer l'autre grillage. Va jusque devant. J'arrive là devant. Et je me disais, « Seigneur, qu'est-ce que je fais ici ?» Je dis au garde, « Donne-moi la carte, je sors. » « Ah non, non, tu ne peux pas sortir. Il y a plein de policiers dehors. » J'attends, j'attends. Et je vois que l'heure passe. Et je m'inquiète. Et voilà que je dis, « Non, il me faut ma carte, je dois partir. » « Ok, pas de problème, tiens. » Je sors de la prison, plein de mitraillettes sur moi. Mais je dis, « Seigneur, qu'est-ce que je fais ici? Qu'est-ce que je fais ici ?» Il me dit, « Mais qu'est-ce que vous faites là ?» Je fais, « Mais je suis aumônier. » Donnez-moi votre carte d'identité et attendez ici. Voilà qu'ils vont dans la voiture et ils regardent. Ils reviennent vers moi et font « Pars et accélère et va-t'en. » Je suis parti. Pendant 3 années, c'était pas 3 années de ministère, c'était 3 années que l'Éternel disait « Fortifie-toi, fortifie-toi. » Mon frère, ma sœur, le service, c'est un cadeau que Dieu te donne pour que tu sois fortifié. Regardez une fois, quand vous évangélisez à quelqu'un, vous êtes heureux parce que vous êtes fortifié. Est-ce que Dieu nous demande. Et David sait très bien, pour Salomon, fortifie-toi. Et regardez ce qu'il dit. Fortifie-toi et agis. J'aime une autre traduction que agis. Ça veut dire travail. Travail. Adam et Ève, avant qu'ils connaissent le travail, avant qu'ils connaissent le péché, le travail c'était un loisir. C'était un plaisir. Ève et Adam ne transpiraient pas. Ève pouvait dire, Adam, tu sens toujours bon. Tu n'as pas besoin de déo. Tu sens bon, Adam. Mais dès qu'il a péché, Ève a commencé à dire, tu pues. Mets du déo. Mon frère, ma sœur, nous sommes cette époque où le travail, c'est dur parce que c'est le péché est là. C'est dur. Tu transpires. Il y a des difficultés. Mais il te dit, travaille. Travaille. Là où je travaille, dès que tu passes la porte, il y a un tableau grand, la règle d'or, ça s'appelle. C'est marqué, avant d'agir, réfléchis. Parfois, toute une journée, je ne travaille pas. Et mon chef, il dit, mais Gino, qu'est-ce que tu as fait? Je suis en train de réfléchir. C'est fou. Hein? Avant d'agir, réfléchis. Alors, ce matin, je vais te laisser avec ça. Avant de travailler, réfléchis ces quatre points. Connais le Dieu de ton Père. Connais-le personnellement. Obéis-le. Il te connaît ton cœur, tes pensées. Il connaît tes desseins. Persévère. Persévère. Et fortifie-toi. Il ne nous reste plus que à travailler durant toute cette semaine. Que le Seigneur nous bénisse. Amen.